bonjour et merci de vous savoir très nombreux à l'écoute du nouveau numéro Patara, le débat politique de Radio Ndekeluka. Un an après le lancement des opérations militaires contre l'Ukraine, le monde entier et l'Afrique en particulier font face à des conséquences directes. La République centrafricaine n'a pas été épargnée des effets de la guerre qui se poursuit depuis un an en Europe. La guerre de positionnement commence à se faire sentir. Par exemple, les États-Unis d'Amérique ont lancé un ultimatum au président centrafricain Faustin Archange Touadéra de renvoyer les paramilitaires russes d'ici un an. En contrepartie, l'administration Biden lui a proposé un bon nombre de garanties, entre autres la formation des militaires centrafricains, l'élargissement de son aide au développement et en assistance humanitaire, ainsi que l'éloignement loin des frontières centrafricaines. François Bozizé Nguvonda, ancien président et actuel leader de la rébellion de la CPC. Dans le cas contraire, le chef de l'État assumera toutes les conséquences de son choix politique, martèle les États-Unis. Mais le choix politique du locataire du palais de la Renaissance a toujours été clair. Je cite, il y a de la place pour tout le monde, autrement dit pour tous les partenaires. Question, est-ce que la République centrafricaine est en train de payer son soutien ou sa proximité avec la Russie en guerre avec l'Ukraine? Est-elle une victime collatérale de guerre des puissances? Pourquoi les États-Unis exigent du président Touadéra le départ des hommes de Wagner alors que Bangui parle des instructeurs russes envoyés sous le mandat des Nations Unies? Voilà l'ossature du débat d'aujourd'hui. Place à nos invités, Charles Armel Douban, docteur en relations internationales, ancien ministre des Affaires étrangères et ancien ambassadeur de la République centrafricaine à l'ONU. Monsieur, bonjour.
Bonjour Armando, bonjour à tous les auditeurs de Radio Ndekeluka.
Fidel Gwandika, bonjour.
Bonjour Monsieur Armando.
Ministre et conseil spécial du président de la République, et Paul Cresson Beninga, docteur en sciences politiques, enseignant-chercheur et porte-parole du groupe de travail de la société civile. Monsieur, bonjour.
Bonjour Armando, bonjour également à vos auditeurs.
Armando Ngendi, c'est moi une fois de plus. Bonjour à toutes et à tous. Le débat, c'est dans un instant.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Ouvrons le bal avec vous, Monsieur Fidel Gwandika. Il y a un an, avec ce même panel du débat politique d'aujourd'hui, nous avions analysé et décrypté les raisons et les conséquences de l'attaque russe contre l'Ukraine. Vous avez prédit beaucoup de choses concernant le positionnement politique de la République centrafricaine. Gardez-vous encore quelques souvenirs de vos déclarations? Et la même question pour tous nos participants à ce débat.
Je vous avais dit, Monsieur Armando, autour de cette table, que la République a opté pour une position de neutralité. Et donc, nous ne changeons pas notre position. La guerre, ça fait déjà une année que cette guerre dure et ça va encore durer le temps qu'il faut pour que la paix arrive. Mais vous savez, ces choses-là sont écrites dans les saintes écritures. Depuis longtemps, Jésus lui-même a dit de sa bouche que lors des derniers temps, il y aura des faux pasteurs et il y aura des tremblements de terre, une nation s'élèvera contre une autre nation et ce sera le commencement. Donc, en principe, l'archevêque Nzapale Inga ou le révérend pasteur Greco Yame qu'il fallait inviter ici pour qu'il dise au peuple que la prophétie de Jésus est en train de se réaliser.
C'est ce que vous avez dit la fois dernière.
D'entrée de jeu, non. Les choses ont évolué.
Et sur les conséquences, ça fait un an, vous avez aussi dit quelque chose, beaucoup de choses sur les conséquences de cette guerre en Ukraine, sur la République centrafricaine.
Les conséquences sont mondiales. Et la République centrafricaine n'échappe pas à ces conséquences-là. Il y a eu augmentation des prix des denrées de première nécessité. Il y a eu également augmentation drastique sur le plan mondial, prix du carburant à la pompe dans tous les États du monde. Et voilà, le peuple en souffre et c'est le peuple du monde entier qui est affamé aujourd'hui à cause de ce conflit entre deux nations.
Docteur Douban, vous vous souvenez aussi de ce que vous avez dit il y a un an.
Écoutez,
après l'attaque ou bien après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Écoutez, après l'attaque du 24 février 2022. Au mois de mars, vous nous avez fait l'amitié de nous réunir autour de ce plateau. Il manque le Premier ministre Martin Zigele. Nous disions à l'époque que cette guerre, même si certains parlaient d'une opération spéciale, allait avoir des conséquences dramatiques sur le monde entier. Et pour les pays comme les nôtres, qui dépendons en grande partie de ce qui vient de l'extérieur, nous avons cité un certain nombre de produits dont le manque affecterait effectivement la République centrafricaine. Nous parlions à l'époque des questions des hydrocarbures, donc la question du carburant. Nous parlions à l'époque du gaz. Nous parlions à l'époque des céréales, donc farine de blé. Nous parlions à l'époque des engrais. Et une année plus tard, la situation est allée de mal en pis, au point où, au niveau de l'Union africaine, la question effectivement de ce manque a été une préoccupation et a conduit le président Macky Sall, ancien président de l'Union africaine, avec le président de la Commission de l'Union africaine, auprès du président Poutine pour qu'il lève un peu justement les verrous sur les possibilités d'importation de ces marchandises à destination des pays d'Afrique. Et je suis content aujourd'hui d'écouter le pasteur Ngwandika qui nous parle des révélations bibliques par rapport à cette guerre. Je crois qu'il y a un an, des 193 États qui avaient voté effectivement pour reconnaître la responsabilité de la Russie dans cette guerre, le front s'est renforcé. Il y a deux jours, aux Nations Unies, effectivement, il y a eu un vote pour confirmer ce soutien et ça a été fait. Et certains pays qui, au départ, ne s'étaient pas prononcés, ont été amenés à se prononcer et, ou bien ont essayé d'évoluer. Vous voyez aujourd'hui la position chinoise, même si la nôtre a été effectivement la neutralité par rapport au mot d'ordre de l'Union africaine et surtout de notre vision traditionnelle effectivement du non-alignement. Mais je sais qu'entre-temps, lors de la Commission des droits de l'homme, nous avons voté le texte qui était pratiquement en faveur de la Russie, donc la situation sur les droits de l'homme. Mais la position centrafricaine est restée quasi constante en dépit des liens qui existent entre Bangui et Moscou. Voilà, cette guerre se poursuit, elle va encore durer. Et c'est à nous maintenant de continuer, puisque les conséquences sont mondiales, c'est vrai, mais nous avons véritablement vécu les conséquences aujourd'hui au niveau du panier de la ménagère en ce qui concerne le carburant. Les prix ont flambé et aujourd'hui, vous savez, quand le carburant augmente, naturellement, il y a des effets en cascade. Et donc aujourd'hui, le panier de la ménagère également est touché par rapport à cela. Donc cette guerre, plus elle dure, plus il y aura des conséquences et des conséquences encore plus difficile pour nous autres États fragiles et surtout États continentaux qui n'avons pas de littoral sur la mer. Et vous savez ce que nous avons vécu quand les premières conséquences ont commencé à avoir lieu, les difficultés que nous avons eues avec notre partenaire qui est avec nous à la CEMAC, le Cameroun. Donc, ce qui a nécessité des missions du ministère de Commerce et pour essayer de voir ce qui peut être fait, enfin, d'atténuer les effets de la crise au niveau national.
On y revient. Monsieur Paul Cressant-Beninga, vous étiez co-débatteur il y a un an sur...
président Ngwandika nous disait qu'on pouvait se contenter de nos patates. Hein.
Oui, monsieur Paul Cressant-Beninga, sur ce point.
Effectivement, lors de ce débat, j'avais prévu, en termes d'analyse, un certain nombre de conséquences. Et ces conséquences ont été rappelées à juste titre ici par le ministre Douban. Mais de mon point de vue, cet aspect aujourd'hui n'est plus important. Ce qui est important, c'est que comment est-ce que nous sommes arrivés à ce niveau-là? Parce que le prix à la pompe des produits pétroliers a drastiquement augmenté. Le panier de la ménagère a subi un coup. Et à partir de ce moment, la question que je me pose et j'ai envie de poser à nous tous qui sommes là est celle de savoir si on peut simplement prendre pour prétexte la guerre en Ukraine comme la conséquence directe de ce qui se passe aujourd'hui sur le marché en République centrafricaine. Et je suis de ceux qui pensent que non, la réponse elle est non. On ne peut pas uniquement prendre pour prétexte ce qui se passe en Ukraine pour justifier la flambée des denrées, des prix alimentaires, l'augmentation à la pompe des prix des produits pétroliers. Et je vais très rapidement m'expliquer, Armando. Voyez-vous, ça, on ne dit jamais aux Centrafricains. Pendant la COVID-19, au plus fort de cette pandémie, les prix des produits pétroliers ont baissé sur le marché international. Dans des pays sérieux, dans des pays où on fait de la planification, on aurait dû s'attendre à ce qu'on puisse être confronté après la pandémie de COVID à l'augmentation des prix de produits pétroliers à la pompe. Ça n'a pas été le cas. On s'est comporté comme si on était surpris de ce qui est arrivé. Or, ce qui est arrivé, c'était prévisible il y a de cela un an. Personne au niveau des départements compétents, personne n'a pu effectivement prévoir cela. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, aujourd'hui, nous avons un budget sensiblement de 300 milliards et nous n'avons pas encore pu mobiliser la moitié de ce budget-là. Mais nous sommes étonnés. D'abord, ce budget, il n'est pas significatif. Un budget de 300 milliards pour un pays comme le nôtre, c'est un budget qui n'est pas significatif. Mais nous le comprenons parce que nous sommes confrontés à des difficultés. Ça se comprend, ça s'explique. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'aujourd'hui, on se plein de ce que nous n'avons pas des moyens, nous n'avons pas la possibilité de mobiliser plus que ça. Or, de 2016 à 2021, l'État centrafricain a bénéficié de nombreux appuis. Mais la question qui se pose, comment est-ce que ces appuis budgétaires, ces projets financés et autres ont été gérés? Je donne des exemples simples. Le président Touadéra, dans le cadre du RCPCA, ce plan de relèvement, a mobilisé des fonds, près de 1000 milliards. Il y a des ministères, et ça, c'est pas moi qui le dis. Il suffit de lire, par exemple, le rapport du séminaire qui a eu lieu, je crois, entre août et septembre dernier. Et vous verrez que c'était pas pratiquement un séminaire gouvernemental, mais c'était l'occasion de procéder à l'évaluation des départements ministériels. Et la conclusion, si vous voulez, de ce séminaire-là, nous a laissé comprendre effectivement que beaucoup de départements ont dilapidé les fonds reçus dans le cadre de ce qui s'était passé à Bruxelles. Vous savez, par exemple, un département comme celui de la santé...
Et vous accusez directement la mauvaise gouvernance, hein?
Oui, un département comme celui de la santé, un département comme celui de la finance, un département comme celui des travaux publics ont levé des fonds à hauteur de près de plus de 150 milliards. Et des décaissements ont été réalisés. Le taux de décaissement pour certains départements, notamment de la santé, de la finance, c'est près de 90% de décaissement. Mais sur le terrain, concrètement, quel est l'impact sur le terrain? Les plateaux techniques dans les hôpitaux n'ont pas été améliorés. Quand un ministère comme celui des finances de 2016 à 2020 ou 2021 a levé près de 150 ou 200 milliards avec 90% de décaissement, mais l'impact réel, on n'en voit pas.
Et donc, pour vous, tout ce que certains membres du gouvernement ou bien le gouvernement dit par rapport à la situation actuelle et qui rejette, par exemple, sur la situation, la guerre en Ukraine, pour vous, c'est un prétexte.
On ne peut pas nier l'impact ou les effets de la guerre en Ukraine sur l'économie, que ce soit au plan macro et au plan microéconomique du pays. Mais il ne faut pas prendre ça pour prétexte, pour justifier tout ce qui nous arrive. Je suivais à l'occasion ministre Ngwandika qui demandait à ce que le ministre de la Santé soit interpellé au niveau de l'Assemblée nationale. Bon, je souscris entièrement à cette demande-là pour une raison simple. Effectivement, aujourd'hui, il y a de cela 2 ou 3 semaines, le personnel de la santé a fait grève parce que le personnel estimé qu'il devait percevoir les primes Covid. Ça n'a pas été le cas. Mais il faut rendre des comptes, simplement parce que des fonds ont été décaissés dans ce cadre-là. Où sont partis ces fonds-là? Donc, je veux dire qu'il ne faut pas mobiliser ce qui se passe en Ukraine pour justifier tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Les causes également, nous sommes les premiers responsables.
Avant,
et nos gestionnaires,
avant, selon vous,
avant depuis 2016, quand le président, dans le cadre du RCPC, a levé des fonds. Et aujourd'hui, les départements qui sont chargés de gérer ces fonds-là, ça n'a pas été véritablement le cas. Et je pense aussi qu'il y a le premier responsable qui est aujourd'hui le Premier ministre, parce que son département, qui est le ministère de l'économie et du plan, ce département-là qui est censé coordonner la gestion de tous ces fonds-là. Et il faut qu'il rende compte.
Monsieur Fidel Gwandika, les raisons évoquées aujourd'hui par le gouvernement, la hausse des prix des denrées alimentaires, la flambée du prix du carburant sur le marché, etc., c'est ce qui s'est passé avant. Mais avant tout, hein, le panier de ménagère, vous avez compris, c'est la conséquence de la mauvaise gouvernance, en un mot, c'est ça. Il ne faut pas justifier, par exemple, ce qui se passe en République centrafricaine par rapport à la guerre en Ukraine.
Mais c'est vous qui l'avez dit.
C'est ce qu'il a dit, je vais pas la phrase rapidement.
C'est ce que vous avez dit dans votre introduction.
On y revient.
Vous savez très bien qu'il y a certaines personnalités, dont M. Beninga, Dr. Beninga, qui est de la société civile, ont l'habitude de dire de contre-vérités, de faire des discours populistes pour que les gens soient... leurré. Nous sortons d'un dialogue républicain où il était membre du comité directoire. Donc, il n'a pas parlé de ça pendant ce dialogue et c'est maintenant autour de cette table-là qu'il profite de ce que j'ai demandé à l'Assemblée nationale d'interpeller un membre du gouvernement pour faire la lumière sur l'argent de Covid, pour dire que les gens détournent l'argent depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour moi, ça, ce sont des contre-vérités.
Et pourquoi vous avez lancé cet appel à l'Assemblée nationale?
C'est normal, parce que le peuple souffre.
Vous dites la même chose que nous.
Non, nous ne disons pas la même chose. Le personnel du ministère de la Santé réclame les primes de Covid. Est-ce qu'il réclame à tort ou à raison? Pour que la lumière jaillisse sur cette affaire, il faudrait que l'Assemblée nationale, le Parlement, dans son premier rôle est de voter le budget et ensuite de suivre l'exécution de ce budget-là, de contrôler les actions du gouvernement. Et c'est à l'Assemblée nationale d'interpeller les ministres accusés, parce qu'ils sont seulement accusés, peut-être qu'ils sont coupables ou pas, ils ont présomption d'innocence, de faire la lumière sur ces choses-là. Le gouvernement n'a jamais dit que l'augmentation du prix du carburant à la pompe est la conséquence de la guerre en Ukraine.
Ah oui, ça a été dit.
Le gouvernement a dit que depuis 2019, nous ne recevons plus certaines aides budgétaires. La Banque mondiale a rétréci ses enveloppes. Le FMI également. Et nos partenaires traditionnels, eux également, ont fermé le cordon ombilical. Et donc, en principe, le prix du carburant n'a pas augmenté. C'est le vrai prix maintenant qu'on l'a affiché, parce que avant, le gouvernement subventionnait le prix à la pompe. Je l'avais déjà expliqué ça longuement ici. C'est qu'il y a eu une mauvaise communication autour de l'augmentation du prix à la pompe. Je disais que le pétrole lampant, en réalité, à la pompe, coûtait 900 francs. Mais le Centrafricain achetait à 500. C'est le gouvernement qui subventionnait le reste. Quand les ministres Douba, docteur Christian Beninga, Gwandjika Fidel, et je ne sais pas qui, ministre député, qui gagne plus d'1 million par mois, va à la pompe pour acheter 1 litre de carburant, il paye à 855 francs le litre. Mais c'est le gouvernement qui paye les 500 autres fois après. Aujourd'hui, le gouvernement n'est plus en mesure de subventionner le pétrole, et dans le monde entier ça se passe, on a vu chez nos voisins pareil, et c'est comme ça que le prix apparemment a augmenté au niveau de la pompe. Et c'est vrai, ça a eu des répercussions au niveau des denrées de première nécessité. Les gens ont profité pour augmenter, parce que les prix du bus ont augmenté.
Les gens ont profité, ou bien c'est un effet mécanique?
Vous parlez d'un effet mécanique, vous savez pas ce que c'est que la mécanique. Voilà.
Avant de poursuivre le débat, Monsieur Gwandjika, oui, je vous invite à réécouter l'extrait de l'émission que nous avions faite le 5 mars 2022 suite à l'invasion de l'Ukraine.
Nous vivons au présent. Vous nous ramenez au passé.
C'est que nous avions prédit il y a un an. Est-ce qu'on va écouter ça?
Cette guerre peut créer ce qu'on appelle la récession, la stagnation et l'inflation. Et ça se voit beaucoup plus au niveau de l'Europe. On parle du pétrole. Notre pétrole, on le prend au Nigeria. Donc, ça ne nous regarde pas. Mais le pétrole à la pompe, s'il vous plaît.
Le cours est fixé à Londres.
Oui, le cours est fixé à Londres. Voilà. Le cours de coton, du café, c'est fixé à Londres. Vous achetez votre café toujours à 100 francs ici, au marché. Alors qu'ailleurs, on l'achète à 1000 francs le kilogramme.
C'est une mauvaise comparaison.
Non, c'est pas une mauvaise comparaison.
Même si les gens ne voient pas cela d'entrée de jeu. L'Afrique en général, il y a sur le plan économique, ce sera irréversible, qu'on ne veuille ou pas. Même si le ministre Gwandjika rappelle ici qu'aujourd'hui, les prix sont encore stables, on va connaître des changements dans les jours à venir. Parce que nous sommes dans un monde interdépendant.
C'est vrai, avec ce qui s'est passé dans la gestion de cette crise, où effectivement on a vu des Africains discriminés et les réprobations qui en ont suivi. Aujourd'hui, il y aura effectivement des humanitaires qui vont aller en Ukraine. C'est clair, c'est vrai qu'on parle déjà de pratiquement 2 millions de réfugiés et déplacés. Mais je ne suis pas sûr que les crises en Afrique, qui sont déjà orphelines, vont aussi continuer à être là. Mais en même temps, il est clair que aujourd'hui, on va essayer de parer au plus pressé, oui, de trouver une solution à l'Ukraine. Et on ne peut pas complètement déconnecter les crises du Sud par rapport à la crise, parce que on est dans un contexte où la paix à tous les prix,
oui,
doit être une paix international.
On va écouter M. Ziguele sur les conséquences.
Oui, naturellement, ce conflit-là aura de grandes conséquences sur l'Afrique. Les premières conséquences sont d'abord économiques. Parce que quelqu'un a parlé d'interdépendance politique, mais il y a une interdépendance économique. La Russie est un grand producteur d'hydrocarbures, est un grand producteur de gaz, d'aluminium, etc., etc. La Russie pèse à un certain poids dans les relations économiques, même si elle n'est pas, par rapport à son PIB, prépondérant en matière économique. les prix des matières premières, même si elles se trouvent en Afrique, dont le pétrole, ces prix-là sont fixés à la bourse de Londres, donc à New York. Donc, le prix du pétrole qui est en train d'augmenter n'aura de répercussions en Centrafrique que lorsque les réserves actuellement en cours seront épuisées. Et vous savez, je suis député, membre de la commission finance, une grande partie de nos ressources vient de la fiscalité, de la TVA sur la vente du pétrole. Et la TVA est reversée à l'État lorsqu'il y a un bénéfice, c'est-à-dire lorsque l'ensemble des dépenses est inférieur au prix de vente de l'essence. Mais lorsque le coût d'acquisition de l'essence sera supérieur au prix de vente, la TVA sera négative. Donc c'est l'État qui doit reverser maintenant aux traders et ça aura une conséquence directe sur le budget.
Non.
Soit vous subventionnez.
Ah bon? Non, non.
Soit vous subventionnez.
Il y aura inflation.
Non.
Et l'inflation va bénéficier
Monsieur Ngwadika,
à l'État.
Je vous en prie, je ne discuterai pas avec vous de télécommunications.
Ah non, non,
je
non,
ne
non,
vous
non,
permettrai non, pas de discuter sur ce problème de budget. La subvention, je le rappelle, c'est une dépense qui vient en réduction des moyens financiers de l'État. Donc l'un dans l'autre, c'est un problème. Deuxième problème, lorsqu'on parle de blé, vous voyez le pain. Mais il y a les beignets. Presque tous les Centrafricains mangent un beignet le matin.
Il y a les beignets de
Malène.
Voilà, donc, il y a les beignets de Malène.
Il y a cela.
Voilà, merci beaucoup. Ce sont les temps forts hein, du débat que nous avions animé il y a cela un an sur les conséquences directes de la guerre en Ukraine en République centrafricaine. Monsieur Paul Christian Beniga, vous avez déjà expliqué ce que vous avez vous-même écouté, vous l'avez déjà dit il y a cela un an. Aujourd'hui, sur le marché, en République centrafricaine, la situation va de mal en pis. Mais est-ce qu'on n'a pas pris le temps pour tout mettre en œuvre afin de contraindre cette situation?
Avant de répondre à cette question, je voudrais tout simplement faire observer au ministre Fidèle Ngwandika ici qu'il a dit une chose et son contraire. Parce que toutes les fois où il a nié le fait qu'il n'y aura pas d'inflation, aujourd'hui, nous sommes manifestement au-delà de l'inflation. Et donc, c'est ce qui caractérise d'ailleurs le ministre Ngwandika. Sa spécialité, c'est de dire une chose et son contraire.
Il a mal écouté. J'ai parlé qu'il y aura inflation bénéfique il va finir. À l'État.
Il va finir, vous allez répondre.
Faut pas dire cela dit,
je réponds à votre question. Je disais ceci, ce qui s'est passé, c'était prévisible. Si nous sommes arrivés à cette situation, c'est parce qu'un travail en amont n'a pas été fait. Pourtant, ça devrait être fait. Ce travail n'a pas été fait. Et aujourd'hui, les décisions qui ont été prises relèvent pour la plupart de l'amateurisme. Et je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, le Centrafricain lambda qui paye le prix de cet amateurisme-là. Nous sommes tous d'avis, hein, que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit au niveau des politiques, les gens s'accordent sur un fait. On s'attendait à ce qu'on augmente, par exemple, les prix des produits pétroliers à la pompe. Mais pas à ce prix-là. Un litre de gasoil à 1450, un litre d'essence à 1300, un litre de pétrole à plus de 1000 francs, personne ne s'y attendait. Même les pays qui ont augmenté un peu partout, que ce soit les pays qui exploitent le pétrole, qui produisent le pétrole, que ce soit les pays qui ne produisent pas le pays, comme c'est le cas chez nous ici, il y a augmentation, mais pas à ce prix-là. Et donc, voyez-vous, aujourd'hui, on est dans une dynamique qui est telle qu'on demande aux Centrafricains lambda de supporter, j'ai envie de dire, au-delà de tous ses moyens, le fonctionnement de l'État. Il n'y a pas que les prix de
produits. En lien aussi avec la guerre en Ukraine, c'est ce qui
non, ce lien, vous forcez trop ce lien. Je vous dis, je ne nie pas les effets ou encore les impacts de ce qui se passe en Ukraine sur notre économie ici. Mais ça ne justifie pas ce qui se passe là, les décisions qui ont été prises. Je vous donne un exemple simple. Pourquoi demander aux Centrafricains de payer près de 7% de ce qu'ils achètent comme crédit de communication? Par exemple, qu'on nous justifie le lien entre ce qui se passe à l'Ukraine et ce qui se passe ici, ça veut tout simplement dire que l'État, aujourd'hui, n'a pas les moyens qu'il lui faut pour pouvoir supporter son fonctionnement. Et on demande aux Centrafricains lambda. Et ce qui est choquant, c'est que les gens de la trempe du ministre Ngwandika ne perçoivent pas, en fait, ne subissent pas ces effets-là, comme le Centrafricain lambda qui reçoit pratiquement 30 à 35 000 francs comme salaire à la fin du mois. Mais je vous dis, ça relève de l'amateurisme. Pourquoi? Simplement parce que cette décision-là devait être d'abord prise de façon collégiale. Ça n'a pas été le cas. Je prends l'exemple de l'augmentation du prix des produits pétroliers à la pompe. Les acteurs sociaux ont été unanimes sur cette question-là. La décision a été prise de façon unilatérale. Mais oui, les négociations sont venues après. On a voulu créer un cadre. Et je vous dis, c'est la manière de concevoir le fonctionnement de l'État par l'élite politique dirigeante qui pose problème. Aujourd'hui, quelqu'un comme Ngwandika, quelqu'un comme le ministre Puri, pense que l'État ne doit pas être co-géré. La gestion de l'État appartient à l'élite politique dirigeante au point que les décisions sont prises, on vous met devant les faits et puis après on dit on ouvre une négociation. C'est de la gesticulation institutionnelle. Ça n'a rien à voir avec la gestion orthodoxe d'un État.
Monsieur
aujourd'hui, au XXIe siècle, avec si vous voulez, la démonopolisation de la gestion de la chose publique, il faut que les ministres comprennent. Il faut que le gouvernement comprenne qu'il n'est pas le seul acteur institutionnel à gérer l'État. L'État doit être co-géré. Il y a certaines décisions qui doivent être prises en commun accord avec d'autres entités non
étatiques. Monsieur Douban, vous avez écouté vous-même ce que vous avez dit il y a un an avec ce qui se passe sur le terrain. Est-ce qu'on peut déjà prendre le devant en principe pour prévenir la situation actuelle en République centrafricaine?
Mais écoutez, gouverner, c'est prévoir. Et à mon avis, et Paul Cresson vient de le rappeler à juste titre, nous voyons venir cette crise. Tout le monde était d'accord que, n'étant pas producteur, même si on l'était, les prix des hydrocarbures allaient augmenter. Mais la réussite d'une bonne politique, c'est tout dans la démarche. La première des choses, c'est qu'on anticipe. On sait ce qui va se passer. On réunit les différents acteurs. Et on les informe de la manière dont on va régler ce problème. De cette manière, ils portent le projet, ils le diffusent au niveau de consommateurs et la politique passe sans problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on a augmenté et on est allé chercher des gens pour qu'ils viennent discuter. Et quand c'est comme ça, sachez très bien que ça ne marche pas comme ça. Mieux, quand il s'est agi de voir les conséquences, automatiquement, les premières victimes doivent être les transporteurs. On augmente le prix de transport et après, on le met devant le fait accompli. Quand c'est comme ça, ça ne marche pas. Et donc, tout est dans la démarche. De la manière dont vous prenez cela, automatiquement, vous pouvez avoir le résultat qui s'en va. D'une manière globale, je dis que cette crise, il y a un an, avait commencé avec des conséquences au niveau international. Puisque la question du pétrole aussi, au niveau international, c'est comme ça que ça s'est posé. Étant entendu que l'Ukraine, surtout la Russie, étant grand producteur de pétrole et surtout du gaz, tout a été fait pour essayer, et avec les pays producteurs dans leur consortium, pour fixer les règles du jeu au niveau international afin d'éviter les contre-coups. Et malheureusement, on n'a pas pu obtenir tout ce qu'on voulait, puisqu'effectivement, avec la politique des sanctions et le plafonnement du prix du pétrole en provenance de la Russie, automatiquement, on n'a pas pu mieux maîtriser la situation. Et donc, que ce soit sur les places de Londres ou de New York, hein, sur le Brent, vous avez vu que ça n'a pas beaucoup évolué. Et les conséquences aujourd'hui, c'est ça. C'est que nous allons en payer le prix. Et les choix politiques, les choix économiques, dans un contexte de rarification des moyens de l'État, effectivement, va nous poser des problèmes. Et si nous ne nous asseyons pas pour pouvoir anticiper et voir ce qu'il y a lieu de faire entre Centrafricains, nous allons connaître des situations beaucoup plus graves avec un budget national de 300 milliards où pratiquement nous tablons sur la moitié. Mais c'est une réalité, il ne faut pas rigoler, monsieur le ministre Mwandika. Aujourd'hui, la capacité centrafricaine, c'est 300 milliards et nous savons très bien que la moitié provient de l'extérieur, ce que nous n'avons pas. Et donc, nous tablons sur 150 milliards que nous peinons justement à lever, aussi bien sur en termes de recettes. Et la technique que nous avons eue depuis ces derniers temps, c'est de recourir au marché financier. Et on sait très bien ce qui se passe. Et donc, nous n'avons pas la garantie que l'État va avoir les moyens de sa politique. Et fort de cela, il faut se parler
Monsieur
pour anticiper les conséquences.
Voilà. Armando, je peux pardonner Monsieur Beninga qui n'a pas encore été au gouvernement, qui n'a jamais été membre du gouvernement. Je le souhaite de devenir un jour ministre, membre du gouvernement, afin de participer au Conseil des ministres, participer à l'élaboration du projet du budget, projet de la loi de finances. Je regrette que le ministre Douban a oublié que si nous sommes à 300 milliards aujourd'hui, il y a 10 ans, on était à 200 milliards. Il y a 20 ans, on était à 100 milliards.
Et les besoins d'aujourd'hui,
s'il vous plaît,
les besoins d'aujourd'hui,
s'il vous plaît, vous vous sentez choqué. Au temps de Bokassa, c'était 67 milliards.
On parle du
aujourd'hui.
Présent.
Ben oui, nous parlons du présent. C'est pourquoi on parle des 300 milliards. Vous ignorez que les prix du carburant à la pompe ne se fait pas de manière unilatérale, comme a dit Dr Beninga ici. Le pétrole, ce n'est pas le gouvernement qui vend le pétrole. Le gouvernement n'a pas augmenté le prix de l'énergie, de l'énerca, ni de l'eau, ni des sociétés d'État que le gouvernement contrôle. Ce sont des étrangers et des nationaux qui gèrent le pétrole en Centrafrique. On n'est plus au temps de Petroca où c'était l'État qui importait le pétrole et fixait le prix. Il y a eu des discussions avant, en amont du vote de la loi de finances. Et ce sont les élus du peuple. Les élus du peuple ont toute responsabilité. Lors des discussions contradictoires qui sont passées à la radio, que ces prix-là homologués par le gouvernement avec la participation des marketeurs. Et c'est ce prix-là qui a été voté dans la loi de finances. Tout ce qui est taxes et redevances proviennent de la loi de finances. Il y a eu des discussions. Il y a un député de la nation, Monsieur Yandoka, qui a discuté, qui a dit non, il fallait mettre à 1100 francs, 1200.
Et il a dit ici sur nos zones que ce n'était pas ce qui avait été discuté au départ.
Il a proposé un prix. Au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont. Mais la majorité a triomphé.
Vous avez quelques secondes.
Oui, moi, j'ai pas fini.
Les uns et les autres ont dit qu'en principe, on devait anticiper ce que nous connaissons aujourd'hui.
On anticipe la guerre. Même les Américains n'ont pas
la guerre. Nous ne sommes pas en guerre.
Mais
on parle des conséquences de ce qui s'est passé.
Non, mais les conséquences, vous dites, c'est les conséquences de la guerre en Ukraine. Mais le prix a flambé. Pourquoi? C'est parce que les Américains ont bombardé le Stream 2, ce qui devait ramener du pétrole en masse en Europe et en Afrique. Ils l'ont bombardé. Oui. Ils ont empêché. Oui, mais c'est moi qui ai la parole. Ils ont empêché à la Russie de fournir du pétrole à tout le monde. En France,
les enquêtes
c'est 1600 francs le litre à la pompe, 2 euros. Il continue d'augmenter dans le monde entier.
Mais pourquoi toujours on prend l'exemple de la France?
France, il y a deux jours, Total, justement, a mis un plafonnement.
Il y a deux jours.
Vous avez une minute pour qu'on entame le second volet de ce débat.
Le ministre Ngwandik a fait de la désinformation. Et je vais lui dire pourquoi il fait de la désinformation. Lorsqu'il évoque la loi de finances, je lui demande tout simplement de reprendre l'arrêté interministériel qui a révisé les prix des produits pétroliers à la pompe. Et il verra que la loi de finances n'a pas été visée. Vous n'étiez pas là. Vous étiez hors du pays. La décision a été prise, monsieur le ministre. Et je vais vous dire une chose. Jusqu'aujourd'hui, aucun ministre du gouvernement centrafricain n'est capable de nous expliquer la structure du prix qui a débouché sur cette décision-là. Ça n'a pas respecté la structure.
C'est vous qui êtes dans la contre-vérité.
Aucun ministre n'est capable aujourd'hui d'expliquer aux centrafricains comment le gouvernement a fait pour fixer le prix du gasoil à 1450.
Mais demandez aux marketeurs,
ce n'est pas de la responsabilité des marketeurs. Ouais. Vous savez, c'est une décision
collégiale.
C'est une décision qui a été prise par le gouvernement centrafricain. Je vous rappelle, lorsque je vous dis que pour une décision pareille,
le gouvernement n'est pas limité à deux personnes. Il y a un conseil des ministres,
Vous avez un logiciel qui n'est plus à jour. Je me permets de vous le dire. Ce n'est pas parce qu'une décision a été prise au conseil du gouvernement que vous pensez que c'est une décision collégiale. Dans le cadre, en l'espèce, en ce qui concerne les prix,
il faut écouter les parties, les différentes parties.
Il y a ce qu'on appelle les partenaires sociaux. On est d'accord. Il faut qu'il y ait une discussion à la base. C'est pas une logique de ce qu'on appelle les Anglais appellent le top down.
Fixer un prix, il faut faire appel aux partenaires sociaux.
Ne mélangez pas
lorsque
les pédales. Vous êtes en train de mélanger les pédales. L'arrêté interministériel a visé la loi des finances.
Un arrêté ne doit pas viser la loi
vous
des finances.
Mais comment vous dites ça?
La loi des finances a fixé effectivement,
s'il vous plaît.
Sur quelle base vous allez fixer les prix si vous ne vous référez pas à la loi des finances.
Le second volet
on peut l'attaquer devant le conseil.
Monsieur Pokressan Beniga, est-ce que on entame déjà le second volet de notre débat d'aujourd'hui? Vous avez écouté ce qui circule dans les médias internationaux, etc. Et même ici en Centrafrique.
Dans le média français, je vous en prie. C'est un journaliste français qui monsieur, a dit ce que vous voulez nous dire maintenant là.
Pourquoi vous êtes allergique? Vous ne voulez pas écouter.
Soyez zen.
Les Américains, prenez la parole pour nous dire. Non, je vous donne la parole parce que c'est vous qui avez la parole.
Posez la question,
puisque vous ne voulez pas que je pose la question. On dit l'ultimatum américain au président Touadéra. Vous êtes au courant ou pas de cette information?
De quel ultimatum? C'est vous qui utilisez ce mot ultimatum là. C'est la première fois que j'écoute ce mot ultimatum.
Dans votre vie, hein?
Non, chez vous. Parce que vous voulez parler de quoi? Ultimatum, qui a donné un ultimatum au président de la République ou à la République centrafricaine?
Je parle des États-Unis d'Amérique.
Ben oui, les États-Unis d'Amérique n'ont jamais donné un ultimatum au président de la République, jamais.
Ils n'ont pas donné de proposition.
Appelez l'ambassadeur des États-Unis ou quelqu'un, un porte-parole de l'ambassade des États-Unis, et posez-lui la question si les États-Unis d'Amérique ont donné un ultimatum au président d'un pays.
On n'a pas donné de conditions au président de la République. Vous,
quelles
en tant que conseil spécial,
non.
Sur la situation, on demande au président de la République de faire partir les paramilitaires en République centrafricaine, et en contrepartie, on va aider le pays à développer, à former les forces armées centrafricaines. Vous n'êtes pas au courant
mais
de cette
information. Mais c'est ce que vous avez lu, est-ce tout que... le monde a lu ça dans la presse.
Mais c'est pourquoi on veut développer,
dans le monde
dit,
et tout
est-ce
ça.
Que, est-ce que cette prise de position américaine, ouais. selon vous, est-ce qu'on ne peut pas mettre sous le dos des conséquences du positionnement de l'option africaine par rapport à la guerre en Ukraine?
Non, ça n'a rien à voir. Nous avons des relations cordiales avec
les États-Unis. Ah donc vous êtes au courant, mais vous ne voulez pas répondre à ma question.
Lors du sommet États-Unis-Afrique, comme plusieurs autres présidents africains qui ont été là-bas, le président a reçu un mémorandum au même titre que plusieurs présidents d'Afrique. Et ce mémorandum-là ne parle pas de ce que vous êtes en train de dire. Vous ne l'avez pas lu. Le journaliste qui a écrit ça dans Le Monde m'a appelé.
Mais c'est pour cette raison qu'on vous a invité.
Antenne,
puisque vous avez lu, ça dit quoi?
RFI m'a appelé pour me demander si on peut mettre à leur disposition le contenu de ce mémorandum. On leur a dit, allez à l'ambassade des États-Unis.
Vous avez lu ce document?
Oui, j'ai lu le document.
Qu'est-ce qui a été dit dans le document?
Il ne s'agit
concernant
pas
la République centrafricaine.
C'est un document secret entre les États-Unis et la République centrafricaine qu'on ne doit pas venir diffuser ça sur
d'accord,
les
monsieur Douban, vous avez écouté comme nous autres, vous avez lu dans les médias cette prise de position américaine. Quel commentaire faites-vous de cela?
Écoutez, je n'ai pas le mémorandum sous les yeux. Je vois un lot de documents que le ministre conseiller spécial du président de la République a
par vous dites que c'est
lui,
secret, mais vous avez le
par
document.
Par devers
vous.
Lui, mais comme tout curieux et comme tout centrafricain et mieux comme diplomate, j'ai lu l'article qui a été publié par Le Monde Afrique. Et à l'intérieur, effectivement, de cet article, on parle d'un certain nombre d'injonctions qui seraient données au président de la République centrafricaine par rapport à la présence sur le territoire centrafricain de Wagner et les manières dont les États-Unis procéderaient pour pouvoir aider notre pays à faire partir cet encombrant partenaire par le financement de la formation de nos forces de défense et de sécurité, par l'aide humanitaire et donc par un certain nombre de mesures pour nous permettre effectivement de reprendre pied. Et quand on lit ça, et si cela s'avère, c'est une question extrêmement grave. Autant je ne suis pas un adepte du pur souverainisme, mais je dis que si avec ce partenaire qui est une hyperpuissance, avec lequel nous entretenons des relations cordiales, parce que il faut le rappeler, les États-Unis restent le premier contributeur de la MINUSCA qui accompagne la République centrafricaine vers sa quête de paix et de sécurité. Les États-Unis aujourd'hui a le leadership de la Banque mondiale qui est l'un des plus grands contributeurs. Et même malgré la crise, vous avez vu qu'il n'y a pas longtemps, une mission est venue où la Banque mondiale se propose de mettre à la disposition de sept ministères un certain nombre de fonds pour pouvoir alléger les difficultés de la République centrafricaine. Et quand ce partenaire parle de cette manière, il faut être extrêmement prudent. Il faut être extrêmement vigilant. Et si cela s'avère,
toujours conditionnel.
Si cela s'avère, les Américains atteindront leurs objectifs.
Et c'est quoi leurs objectifs?
Si effectivement ça a été dit, qu'on donne 12 mois pour pouvoir appliquer ce qui a été dit, dans les 12 mois...
On va faire maintenant appel à la question de la souveraineté
mais c'est pour
de
cette
la République centrafricaine.
C'est pour cette raison que je vous parle de souveraineté.
La République centrafricaine est un pays souverain.
Oui, écoutez, c'est un mot qu'il faut très relativiser dans le contexte. On était en train de parler tout à l'heure du budget national qui est à 300 milliards et dont nous peinons à avoir la totalité parce qu'une bonne partie vient de l'extérieur. Nous perdons de vue que nous sommes un pays non côtier. Nous peinons à comprendre que nous avons des difficultés et que nous avons besoin de l'ensemble de la communauté internationale pour pouvoir nous aider à avancer. Et si rien n'est fait, je sais qu'ils vont atteindre leur objectif
Monsieur
en procédant de la manière qu'ils utilisent et qu'ils savent bien faire. et soyez assurés Monsieur... que si c'était le cas, je dis bien si c'est le conditionnel toujours, ça va arriver.
Monsieur Paul Christian Benelia, cette question fait couler de l'encre ces derniers temps et aussi beaucoup de Centrafricains parlent. On parle aussi des mines et autres ressources naturelles centrafricaines qui auraient financé par exemple en partie l'opération militaire russe en Ukraine.
C'est Mais ce fallait nous le dire pour que...
via le groupe Wagner. Jusqu'à là, aucune réaction des autorités centrafricaines n'est enregistrée sur cette grave accusation. Qu'en dites-vous ?
Armando, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Marie Cotteret. Gouverner, c'est paraître. Il y en a qui disent gouverner, c'est prévoir, mais gouverner, c'est paraître, pour dire que la communication est aussi importante lorsque on gouverne. Effectivement, nous déplorons le silence du gouvernement sur un certain nombre de questions. Il n'y a pas que cette question du mémorandum des États-Unis. Il y a en plus de cette question-là d'autres questions sur lesquelles on s'attendait à ce que le gouvernement puisse communiquer. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, au point qu'aujourd'hui, c'est la présidence qui communique beaucoup plus sur l'action du gouvernement. C'est ce qui est aberrant. Je vous donne un exemple simple, ce qui s'était passé dans la Vakaga. On s'attendait à ce que le gouvernement puisse communiquer, situer l'opinion nationale là-dessus. C'est un ministre conseiller à la présidence qui a fait une sortie tonitruante pour pouvoir accuser les uns et les autres sans pour autant qu'il y ait des fondements. En plus de ça, le ministre d'État directeur du cabinet était absent du pays, il était avec le président. Il a fallu qu'il rentre pour qu'il puisse prendre un communiqué et situer l'opinion là-dessus. Et donc, de mon point de vue, ça témoigne de ce qui fait effectivement, la communication fait partie des points faibles du gouvernement du Premier ministre Félix Moloa. Cela dit, je reviens à votre préoccupation. Écoutez, si aujourd'hui nous sommes là en train d'épiloguer, en train de tergiverser sur le contenu, c'est parce qu'il y a un manque de communication.
Absolument.
Ce n'est pas un document secret. Je l'ai lu, ce document. Je l'ai lu et ça date de plus d'un mois aujourd'hui. Et je vais aller plus loin parce que le ministre Ngwandika ne va jamais dire ça. Quel a été le comportement du gouvernement centrafricain lorsqu'il a reçu ce document?
C'est la question principale.
Le gouvernement centrafricain travaille là-dessus. Après le sommet États-Unis-Afrique, la ministre des Affaires étrangères s'est rendue encore aux États-Unis et aurait travaillé sur ce document. Aujourd'hui, ce document est en voie de devenir quasiment une feuille de route. Il relève de la liberté du gouvernement centrafricain. Le gouvernement centrafricain peut décider de travailler sur ce document, peut décider au nom de ce principe de souveraineté de ranger ce document dans un placard et dire que nous n'en voulons pas. Mais je vais vous dire une chose, et vous êtes journaliste, c'est votre profession, et vous êtes journaliste d'investigation, au niveau de la radio Ndekeluka, et même pour tous les professionnels de médias qui m'écoutent, ils peuvent aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, faire une investigation. Et vous verrez qu'on a déjà les retombées de ce que je vais appeler ça, cette feuille de route, de cette feuille de route commence déjà à être plus claire. Quand vous allez aujourd'hui dans l'Ouham, dans la sous-préfecture par exemple de Nana Bakassa, vous allez rencontrer des Américains. Je vous dis, c'est une piste que je vous donne, allez dans l'Ouham, vous allez rencontrer des Américains. Essayez d'investiguer les sites miniers de la République centrafricaine. Vous allez voir qu'il n'y a pas que les Russes et le groupe russe Wagner qui s'intéressent à ces sites miniers. Alors, donc, c'est une question, en réalité, qui nous amène à repenser la gestion de nos ressources naturelles. Ça, c'est extrêmement important. L'État centrafricain a reçu une offre. C'est à lui, aujourd'hui, d'apprécier si cette offre-là, du point de vue sécuritaire, elle est alléchante. Est-ce qu'elle constitue véritablement une alternative pour le président Touadéra, dans sa politique sécuritaire?
Mais déjà, ce qui est intéressant, c'est pourquoi demander au gouvernement de choisir son partenaire, puisque aujourd'hui, le gouvernement centrafricain est en train de travailler avec un partenaire où il y a un peu de résultats.
C'est sur cette question-là, effectivement, que je voudrais apporter une clarté. C'est une offre. C'est une proposition qui a été faite.
Mais avec des conséquences à l'appui, à la fin.
Alors, les conséquences...
Et non un ultimatum.
Non, ce n'est pas un ultimatum de mon merci. Point de vue. Pour moi, je dis, l'État, si l'État travaille là-dessus,
si
ça deviendra une feuille
voilà,
de route.
Regarde ça.
Si l'État travaille là-dessus politiquement, ça deviendra une feuille de route, ça deviendra une politique publique en matière de sécurité. Mais ce que je veux dire, c'est que...
Mais là, si on donne 11 mois ou 12 mois, c'est déjà un ultimatum. Si vous ne respectez pas jusqu'à tel point...
Mais il faut avoir un deadline.
Oui, ça relève de la capacité de l'État à trouver des éléments de réponse. Je vous dis, en l'État... L'État centrafricain peut décider de ne pas travailler avec ce document. Ça, c'est le premier aspect.
C'est
son droit le plus absolu. Mmh. Et si vous voulez, les conséquences de part et d'autre, ça existe. Chacun va tirer les conséquences. C'est la liberté de cet État-là. Deuxièmement, l'État peut prendre entièrement ce document et travailler avec. Troisième possibilité, l'État peut décider de retravailler ce document de commun accord avec l'État qui lui a fait la proposition. Et manifestement, aujourd'hui, je vous dis, l'État est sur cette voie-là, en train de vouloir retravailler ce document et ne soyons pas surpris que ce document deviendra une feuille de route.
Monsieur Fidel Gwandjika, hein, vous voyez, au début, vous avez nié l'existence de ce document. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, doit-on craindre l'isolement de la République centrafricaine avec toutes les conséquences économiques, financières et autres qui s'en suivront?
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Vous avez dit que ça n'existe pas. Vous m'avez posé beaucoup de questions.
Il y a un ultimatum que les États-Unis ont apposé.
Pour nous, avec une date précise.
Tout projet se fait avec une date.
Ah, ça devient un projet maintenant.
Tout contrat se fait avec une date. Je l'ai bien dit que le président de la République a reçu des mains du président des États-Unis un mémorandum. D'accord ? Et ça, tout le gouvernement le sait. Nous le savons. J'ai une copie de ce mémorandum ici, avec moi.
Vous allez nous donner après ça, après.
Si vous voulez.
Merci.
Mais ce que je n'arrive pas à vous comprendre, et surtout mes co-débatteurs, ils parlent des conséquences que si on ne respecte pas ça, et si le document était vrai, et voilà, et les États-Unis vont aboutir à leur objectif.
Je n'ai pas dit ça, monsieur le ministre.
Non, ça c'est
Je l'ai dit et je peux l'expliquer.
Vous, je l'ai bien dit et je le répète, nous n'avons pas
des injonctions.
De problème avec les Américains.
On n'a pas dit ça.
Nous n'avons pas de problème avec aucun pays du monde. Nous avons de très bonnes relations avec les Américains. Je suis membre, je le redis toujours, membre permanent du Conseil de sécurité et de défense de la République centrafricaine. Et pendant ce conseil, il y a un colonel de l'armée américaine qui siège avec nous. Il n'est pas parti. D'autres pays ont retiré leur participation, leur représentant. Je vais parler de la France. La France ne vient plus au Conseil de sécurité.
Mais déjà, dans le document qui circule,
les Américains,
le président de la République, de faire partie des partenaires.
Américains sont là. Les Américains continuent de travailler avec nous. Nous avons un accord de défense avec la Russie. Et aucun pays du monde, qu'il soit première puissance mondiale, deuxième ou troisième puissance mondiale, ne peut venir nous dicter, de nous dire « éloignez-vous de ce pays ». Non, les États-Unis, c'est une première puissance économique. La Russie, c'est une première puissance militaire. Enfin, nous sommes... Non, c'est vous qui dites non.
Je vous laisserai pas dire.
C'est vous qui dites non. C'est vous
qui
On doit contribuer à l'éducation du peuple.
Mais alors, il faut pas dire ce genre de choses. Qu'est-ce que vous me reprochez? Vous me reprochez quoi? Mais les États-Unis n'est pas une première puissance économique?
Si, quand la Russie est la première puissance au plan mondial.
Vous avez parlé de
inventer des choses.
Allez sur Google, vous allez voir. J'ai parlé de première puissance militaire. Attention. Allez sur Google et vérifiez.
Elle
n'est pas importante ce qu'on a fait. La République centrafricaine est un pays souverain. Aucun pays ne peut nous dicter la conduite à suivre en matière de diplomatie.
Est-ce que vous pouvez gagner du temps encore sur la question de la communication sur ce document?
Non, mais moi, je ne suis pas membre du gouvernement.
Vous travaillez
au côté du président de la République. Je suis ministre conseiller spécial du président de la République. Je suis son conseiller.
Non, mais vous avez toujours parlé de temps, au nom du gouvernement, alors que ça n'est pas de votre compétence, vous le savez.
Non, pourquoi vous dites que ce n'est pas de ma compétence? Prochainement, n'acceptez pas que je vienne ici.
Vous appelez les gens,
ne viennent pas. Et donc, vous ne voulez pas que je vienne?
Oui,
je dis la vérité. Je dis la vérité. Je n'ai pas froid aux yeux. Et je vous dis que ce que...
Répondre à nos questions.
Reposez la question.
Mais le contenu de ce document dit quoi? Vous en avez sous les yeux?
Non, mais vous aurez la quintessence de ce document quand vous aurez le droit d'en avoir.
Oui, monsieur.
Voilà, monsieur Douban parle au conditionnel. Lui, il ne l'a pas vu.
Oui, monsieur Douban,
Beninga prêche le faux pour savoir le vrai. Il n'a pas vu ce document.
Oui, monsieur Douban, vous voulez répondre tout à l'heure sur la question.
Il parle des Américains qui sont à Bossangoua et ailleurs. Les Américains sont sur le territoire centrafricain. Ils sont partout sur le territoire
centrafricain.
Ils étaient à Obo, mais ce n'est pas dans le cadre de ce mémorandum. Vous n'avez pas lu le mémorandum. Allons à d'autres questions.
Non, pas d'autres questions. C'est moi qui dirige le débat. Pourquoi vous évitez qu'on parle de cette situation?
Personne ne dénie la souveraineté de la République centrafricaine. Si la République centrafricaine a reçu un document, effectivement, ça a été rappelé ici. Donc, il y a les possibilités de travailler ensemble pour pouvoir l'adapter au contexte et faire en sorte que les deux parties trouvent la voie la meilleure pour son application.
L'Assemblée nationale sera bientôt saisie pour que ce document-là officiel.
Mais c'est très bien que vous...
Que ce document-là soit...
Vous l'avez déjà discuté.
Alors, si tel est le cas, effectivement...
Attendez, souffrez que ce document...
Il s'agit de la vie de la République centrafricaine.
C'est ça.
Même si on respecte la confidentialité, à partir du moment où ce document tient compte de ce pays, vous devez d'abord
communiquer dessus. C'est pour cette raison
nous
que je dis
que... Nous devons d'abord communiquer.
Mais parce que je dis que...
Vous il y a un temps pour ça. Vous dites qu'on a donné 12 mois, non?
Non, monsieur,
mais nous sommes en train de travailler sur ce document.
Mais si c'est 12 mois...
Vous avez dit qu'on nous a donné 12 mois.
Si on vous a donné 12 mois...
Nous sommes en train de travailler sur ce document.
C'est l'application. Vous n'avez pas à attendre
le document n'a pas été envoyé à l'opposition, monsieur.
Non, s'il vous plaît.
Le document n'a pas été envoyé à l'opposition.
Est-ce qu'on peut parler
à monsieur Guandika? Le document a été remis au président de la République et nous travaillons sur ce document.
Non, vous avez épuisé le temps de votre parole. On écoute monsieur Bouban.
Avec des experts américains.
Monsieur Guandika, je vous retire la parole. On écoute monsieur Bouban quand même.
Je vous dis, quelle que soit l'issue, nous parviendrons à avoir un document qui va fixer en termes de deadline des droits et de devoirs de part et d'autre.
Exactement. Et donc, mais c'est le gouvernement qui va le faire, pas l'opposition. Mais
non, pourquoi vous voulez tirer le débat
parler de l'opposition. L'opposition est centrafricaine.
Bien sûr.
Voilà, l'opposition est centrafricaine. Il s'agit de centrafricains parce que tout ce qui touche la République centrafricaine touche aussi bien le pouvoir que l'opposition.
Et donc, exactement. Et l'opposition se trouve à l'Assemblée nationale, monsieur.
Non, pas
à l'Assemblée nationale.
Ils vont faire du quoi. Ce n'est pas le faucon diviseur. La RCA appartient à tous ses enfants. Et pour l'instant, c'est le pouvoir de M. Touadéra qui a la mission de gérer l'ensemble de ces centrafricains.
Donc, ces centrafricains sont représentés à l'Assemblée nationale.
C'est de notre vie qu'il s'agit. Vous l'avez déjà dit.
Député, vous devez le savoir.
Mais écoutez, vous ne l'avez pas été, je l'ai été. Oui, je sais ce que ça
commence à... Mais parce que j'ai jamais été candidat.
Parce que vous ne pouvez pas gagner une élection législative. Donc, pour ça, je crois que nous devons tenir compte de la République centrafricaine, de ses intérêts, en tenant compte de l'enjeu international dans lequel nous fonctionnons. Et je sais que si nous n'appliquons pas cela, il y aura des conséquences.
Quelles conséquences? Calmez-vous, monsieur, vous n'avez pas la parole. Oui, monsieur Pokesson
Benin. Je dirais très rapidement trois choses. La première, c'est de rétablir une vérité. Je suis un enseignant du supérieur, je suis un chercheur. Je dis ici que ce n'est pas la Russie qui est la première puissance militaire. Je demande au ministre Wandika d'aller chercher. Ce sont les États-Unis, puis la Russie. Et il ne faut pas qu'ils confondent en termes de première puissance nucléaire et première puissance militaire. Parce que puissance nucléaire, la Russie en a plus de 6000. Et les États-Unis, 5000 et quelques. Donc, il faut faire cette différence-là.
Attention.
Il faut faire cette différence, mais ce sont les États-Unis qui constituent la première puissance militaire.
Vous voulez tordre le cou à l'histoire.
Deuxième. Allez chercher. Deuxième chose, vous venez de dire que je n'ai pas lu ce document.
Vous ne l'avez pas lu.
Patientez, je ne vous ai jamais coupé. Je ne veux pas jouer à ce jeu avec vous. Je vous ai dit par exemple que le gouvernement centrafricain allait loin. Et le gouvernement centrafricain est en train de travailler avec les États-Unis sur cette question pour que ça devienne feuille de route. Vous avez nié et à la fin de vos propos,
on ne parle pas de feuille de route. Ça ne deviendra jamais une feuille de route.
Attendez, à la fin de vos propos ici, vous avez dit, nous sommes en train de travailler avec des experts américains là-dessus.
Oui, mais depuis toujours.
Donc vous dites que ça va atterrir à l'Assemblée nationale. Je vous dis, monsieur Fidel, monsieur Guandika, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous dites toujours une chose sans contre. Et vous ne vous rappelez même pas de ce que vous dites.
La preuve,
autour de ce plateau, vous avez nié ce que j'ai dit. Et à la fin, vous avez décidé de me rejoindre.
Troisième chose, je finis par là.
Troisième là, c'est parce que vous avez dit, on peut repasser la bande.
S'il vous plaît.
C'est parce que vous avez dit, nous sommes en train de travailler avec des experts américains sur ce dossier-là. Ouais. Troisième chose, vous voyez, quand je vous dis, vous avez un logiciel qui n'est plus adapté à la gestion de la chose publique, je veux une fois de plus vous démontrer pourquoi je vous le dis. Aujourd'hui, la participation politique est un élément fondamental dans la gestion de la chose publique.
Absolument.
Vous avez de la peine à défendre ce projet. Pourquoi? Simplement parce que vous n'avez pas communiqué tout autour. Vous avez vu, par exemple, il y a certains activistes qui soutiennent le pouvoir en place, qui ont très mal interprété ce document. Pourquoi?
Mais quel document? Ils n'ont pas vu le document. Ce n'est pas un péché.
Mais ce que je vous reproche, c'est que, ou au gouvernement, c'est que le gouvernement aurait dû, après toutes ces discussions, toutes ces polémiques, dire que oui, nous avons accusé réception d'un document de la part des États-Unis à l'occasion de tel sommet. Le gouvernement travaille là-dessus. Ça suffit. Au moins, ça calme les esprits. Tout le monde sait que le gouvernement a accusé réception. Mais vous ne pouvez pas gérer un État comme vous le faites aujourd'hui. Vous serez toujours mis en difficulté.
Parce que la République centrafricaine
ne vous appartient pas.
C'est un bien
que nous avons en partage.
C'est un bien commun.
Et nous devons la co-gérer. La co-gestion, ce n'est pas un gouvernement d'union nationale. La co-gestion, c'est le partage d'informations. C'est la communication.
Non, mais il faut
mettre à jour ce logiciel-là. Il y a un vieux logiciel.
Mais c'est ça. Je vous en prie.
Vous n'avez pas prenez le document et vous prêchez le faux pour l'avoir.
Et c'est la fin de ce débat d'aujourd'hui. Monsieur, et c'est la fin de ce débat politique. Désolé.
Le temps, de cette manière,
monsieur Douban.
La RCA restera comme ça. Monsieur Douban. Elle ira de mal en pire.
Je vous coupe. Le
soyez
temps
humble, reconnaissez que vous avez
monsieur
des limites.
Monsieur Douban, vous avez compris. C'est la fin.
Demandez à l'opposition américaine de vous envoyer ce document.
C'est la fin.
C'est ça le pouvoir, mon ami.
Monsieur Guadiga. Allez, je vous coupe. Parce qu'il n'a jamais connu ça, il saura ce que c'est le
pouvoir. Et c'est la fin. Et c'est la fin. Non, s'il vous plaît, monsieur Douban, je vous en prie. Respectez la police.
De toute façon, vous n'avez jamais accepté d'être dans une opposition normale.
Et c'est la fin de ce débat. C'est la fin de ce débat. Merci beaucoup. Merci à tous. On se dit à la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Au revoir. Du bon côté.